Chronique du règne de Charles IX, chapitre 18, le catéchumène. Quand deux amants sont discrets, il se passe quelquefois plus de 8 jours avant que le public soit dans leur confidence. Après ce temps, la prudence se relâche, on trouve les précautions ridicules, un coup d'œil est facilement surpris, plus facilement interprété, et tout est su. Aussi, la liaison de la comtesse de Turgis et du jeune Mergy ne fut bientôt plus un secret pour la cour de Catherine. Une foule de preuves évidentes aurait ouvert les yeux à des aveugles. Ainsi, Madame de Turgis portait d'ordinaire des rubans lilas, et la garde de l'épée de Bernard, le bas de son pourpoint et ses souliers étaient ornés de rosettes de rubans lilas. La comtesse avait professé assez publiquement son horreur pour la barbe au menton, mais elle aimait une moustache galamment relevée. Depuis peu, le menton de Mergy était toujours rasé avec soin et sa moustache, désespérément frisée, empommadée et peignée avec un peigne de plomb, formait comme un croissant dont les pointes se relevaient bien au-dessus du nez. Enfin, l'on allait jusqu'à dire qu'un certain gentilhomme sortant de grand matin et passant par la rue des Assis avait vu s'ouvrir la porte du jardin de la comtesse et sortir un homme, lequel, quoique soigneusement enveloppé jusqu'au nez dans son manteau, il avait reconnu sans peine pour le seigneur de Mergy. Mais ce qui semblait encore plus concluant et ce qui surprenait tout le monde, c'était de voir le jeune huguenot, ce railleur impitoyable de toutes les cérémonies du culte catholique, aujourd'hui, fréquentant les églises avec assiduité, ne manquant guère de procession, et même trempant ses doigts dans l'eau bénite, ce que, peu de jours auparavant, il aurait considéré comme un sacrilège horrible. On se disait à l'oreille que Diane venait de gagner une âme à Dieu, et les jeunes gentilshommes de la religion réformée déclaraient qu'ils songeraient peut-être sérieusement à se convertir si, au lieu de capucins et de cordeliers, on leur envoyait, pour les prêcher, de jeunes et jolies dévotes comme Madame de Turgis. Il s'en fallait de beaucoup pourtant que Bernard fut converti. Il est vrai qu'il accompagnait la comtesse à l'église, mais il se plaçait à côté d'elle et, tant que durait la messe, il ne cessait de lui parler à l'oreille, au grand scandale des dévots. Ainsi, non seulement il n'écoutait pas l'office, mais encore il empêchait les fidèles d'y prêter l'attention convenable. On sait qu'une procession était alors une partie de plaisir aussi amusante qu'une mascarade. Enfin, Mergy ne se faisait plus de scrupules de tremper ses doigts dans l'eau bénite, puisque cela lui donnait le droit de serrer en public une jolie main qui tremblait toujours en touchant la sienne. Au reste, s'il conservait sa croyance, il avait de rudes combats à soutenir, et Diane argumentait contre lui avec d'autant plus d'avantage qu'elle choisissait ordinairement pour entamer ses disputes théologiques les instants où Mergy avait le plus de peine à lui refuser quelque chose. « Cher Bernard, lui disait-elle un soir, appuyant sa tête sur l'épaule de son amant, tandis qu'elle enlaçait son cou avec les longues tresses de ses cheveux noirs. « Cher Bernard, tu as été aujourd'hui au sermon avec moi. Eh bien, tant de belles paroles n'ont-elles produit aucun effet sur ton cœur? Veux-tu donc rester toujours insensible ? Bon, cher ami, comment veux-tu que la voix nasillarde d'un capucin puisse opérer ce que n'a pu faire ta voix si douce et tes argumentations religieuses si bien soutenues par tes regards amoureux, ma chère Diane ? Méchant, je veux t'étrangler ! Et, serrant légèrement une natte de ses cheveux, elle l'attirait encore plus près d'elle. « Sais-tu à quoi j'ai passé mon temps pendant le sermon ? À compter toutes les perles qui étaient dans tes cheveux. Vois, comme tu les as répandus par la chambre. J'en étais sûr. Tu n'as pas écouté le sermon. C'est toujours la même histoire. Va, dit-elle avec un peu de tristesse. Je vois bien que tu ne m'aimes pas comme je t'aime. Si cela était, il y a longtemps que tu serais converti. Ah, ma Diane, pourquoi ces éternelles discussions? Laissons-les aux docteurs de Sorbonne et à nos ministres. Mais nous, passons mieux notre temps. Laisse-moi. Si je pouvais te sauver, que je serais heureuse. Tiens, Bernardo, pour te sauver, je consentirais à doubler le nombre des années que je dois passer en purgatoire. » Il la pressa dans ses bras en souriant, mais elle le repoussa avec une expression de tristesse indicible. « Toi, Bernard, tu ne ferais pas cela pour moi. Tu ne t'inquiètes pas du danger que court mon âme, tandis que je me donne ainsi à toi. » Et des larmes roulaient dans ses beaux yeux. « Cher ami, ne sais-tu pas que l'amour excuse bien des choses et... Oui, je le sais bien, mais si je pouvais sauver ton âme, tous mes péchés me seraient remis, tous ceux que nous avons commis ensemble, tous ceux que nous pourrons commettre encore. Tout cela nous serait remis. Que dis-je? Nos péchés auraient été l'instrument de notre salut. » En parlant ainsi, elle le serrait dans ses bras de toute sa force, et la véhémence de l'enthousiasme qui l'animait en parlant avait, dans sa situation, quelque chose de si comique que Mergy eut besoin de se contraindre pour ne pas éclater de rire à cette étrange façon de prêcher. « Attendons encore un peu pour nous convertir, ma Diane, quand nous serons vieux l'un et l'autre. » Quand nous serons trop vieux pour faire l'amour. Oh, tu me désoles, méchant. Pourquoi ce sourire diabolique sur tes lèvres? Crois-tu que j'ai envie de les baiser maintenant? Tu vois que je ne souris plus. Voyons, soyez tranquille. Dis-moi, querido Bernardo, as-tu lu le livre que je t'ai donné? Oui, je l'ai achevé hier. Eh bien, comment l'as-tu trouvé? C'est là du raisonnement, et les incrédules ont la bouche close. Ton livre, ma Diane, n'est qu'un tissu de mensonges et d'impertinences. C'est le plus sot qui soit, jusqu'à ce jour, sorti de dessous une presse papiste. Gageons que tu ne l'as pas lu, toi qui m'en parles, avec tant d'assurance. Non, je ne l'ai pas encore lu, répondit-elle en rougissant un peu. Mais je suis sûre qu'il est plein de raison et de vérité. Je n'en veux pas d'autre preuve que l'acharnement des Huguenots à le dépriser. Veux-tu, par passe-temps, que l'écriture à la main, je te montre? Oh, garde-t'en bien, Bernard. Merci de moi. Je ne lis pas les écritures, comme font les hérétiques. Je ne veux pas que tu affaiblisses ma croyance. D'ailleurs, tu perdrais ton temps. Vous autres, Huguenots, vous êtes toujours armés d'une science qui désespère. Vous nous la jetez au nez dans la dispute, et les pauvres catholiques, qui n'ont pas lu comme vous Aristote et la Bible, ne savent comment vous répondre. Ah, c'est que vous autres catholiques, vous voulez croire à tout prix, sans vous mettre en peine d'examiner si cela est raisonnable ou non. Nous, du moins, nous étudions notre religion avant de la défendre, et surtout avant de vouloir la propager. Ah, que je voudrais avoir l'éloquence du révérend père Giron, cordelier. C'est un sot et un hâbleur. Mais il eut beau crier il y a 6 ans, dans une conférence publique, « Notre ministre Houdard l'a mis à Kia. » Mensonge ! Mensonge des hérétiques ! Comment ? Ne sais-tu pas que dans le cours de la discussion, on vit de grosses gouttes de sueur tomber du front du bon père sur un chrysostome qu'il tenait à la main? Sur quoi un plaisant fit sévère? Je ne veux pas les entendre. N'empoisonne pas mes oreilles de tes hérésies. Bernard, mon cher Bernard, je t'en conjure, n'écoute pas tous ces suppôts de Satan qui te trompent et te mènent en enfer. Je t'en supplie. Sauve ton âme et revient à notre Église. » Et comme, malgré ses instances, elle lisait sur les lèvres de son amant le sourire de l'incrédulité, « Si tu m'aimes, s'écria-t-elle, renonce pour moi, par amour pour moi, à tes damnables opinions. Il me serait bien plus facile, ma chère Diane, de renoncer pour toi à la vie qu'à ce que ma raison m'a démontré véritable. Comment veux-tu que l'amour puisse m'empêcher de croire que deux et deux font quatre ? Cruel ! Mergy avait un moyen infaillible pour terminer les discussions de cette espèce. Il l'employa. « Hélas, cher Bernardo, dit la comtesse d'une voix languissante, quand le jour qui se levait obligea Mergy à se retirer. Je me damnerai pour toi, et je le vois bien, je n'aurai pas la consolation de te sauver. Allons donc, mon ange, le père Giron nous donnera une bonne absolution. In articulo mollis.